de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Nous continuons notre voyage dans les vertus. Après avoir défini ce que j'entends par vertu, à savoir attitude d'obéissance profonde, d'écoute de tout notre être, pour aller vers la perfection divine, en nous mettant entre parenthèses par un acte de kénose pour lui permettre d'exister, et ainsi d'être habité par le feu céleste pour pouvoir agir, servir, glorifier. Je voudrais maintenant tenter d'apercevoir la vertu dans ses manifestations concrètes. Pour comprendre les manifestations concrètes de la vertu, à savoir le fait d'écouter le Verbe céleste et de les laisser grandir à l'intérieur de notre être, il convient de revenir sur la vie divine en Christ, telle qu'elle est enseignée dans la tradition chrétienne. Le christianisme est la religion de la vie. Et la caractéristique de la vie, c'est d'être non pas banalement vivante, mais extraordinairement vivante, divinement vivante. C'est ce qui fait que la vie est plus que vivante. Si nous réfléchissons à cette formule « le plus que vivant » qui caractérise la vie divine, l'extraordinaire vie divine, nous apercevons que celle-ci contient en elle toute la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, c'est la vie comme donnée fondamentale, c'est-à-dire comme souffle créateur qui rentre dans l'intérieur pour aller vers l'extérieur, au-delà de l'intérieur et de l'extérieur, afin de tout illuminer. Le Fils, c'est ce moment où la vie se nie elle-même comme vie simple, vie donnée, vie qui pourrait être banale si elle ne se niait pas elle-même, pour pouvoir aller dans le plus que vivant qui est le souffle créateur de l'esprit. Le Père est vie, le Fils est dépassement de la vie et l'Esprit est le couronnement du dépassement. Si nous gardons à l'esprit ce principe trinitaire, nous pouvons comprendre ce qui se passe à l'intérieur des vertus. Dans les vertus, nous reconnaissons la Trinité qui se trouve partout. Elle se trouve dans la divine Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Mais elle se trouve également dans le cosmos, l'anthropos et le théos, qui se manifestent dans la nature, à travers ce que l'on appelle la nature non humaine, la nature humaine et la nature plus qu'humaine. C'est aussi ce qui se trouve à l'intérieur de notre être, dans la Trinité corps, âme, esprit, qui caractérise ce que nous sommes. Le corps étant le parallèle du cosmos en nous, l'âme, le parallèle de l'homme en nous, l'esprit, le parallèle de la nature plus qu'humaine, la nature divine en nous. Être vertueux consiste à mener la vie juste. Et mener la vie juste consiste à mener la vie vraiment vivante, qui est la vie plus que vivante. Et cette vie plus que vivante, nous la voyons se manifester à travers ce que l'on peut appeler les vertus cosmiques, les vertus humaines et les vertus célestes ou divines. Les vertus cosmiques, ce sont celles que nous allons explorer dans les semaines qui viennent et qui renvoient aux vertus de la matérialité, du concret, de la concrétisation de l'existence. C'est quelque chose que Aristote a justement fait apercevoir, à savoir que le plus beau témoignage de l'être que nous connaissions se trouve dans l'existence. Qu'est-ce qui fait que l'être est l'être ? C'est bien évidemment l'identité fondamentale qui n'appartient qu'à lui et qui fait qu'il est l'être ineffable. Mais c'est aussi ce qui se trouve dans l'existence concrète. L'être est l'être parce qu'il existe vraiment. Et la caractéristique de l'existence qui existe vraiment, c'est d'exister. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'existence. Ce mystère se trouve dans le fait que l'existence nous résiste. Elle n'est pas nous. Et donc, il y a en elle quelque chose d'inaccessible. Mais en même temps, l'existence, du fait qu'elle existe, a quelque chose qui nous attire, qui nous parle, qui nous attire et nous parle dans la partie sensible de nous-mêmes. D'où ce mélange dans l'existence de quelque chose qui résiste et en même temps de quelque chose qui attire. C'est ce qui fait que l'existence est une leçon, une divine leçon. En apprenant l'existence, nous faisons une expérience trinitaire du réel qui est réel parce qu'il est plus que réel. L'existence concrète est au-delà des polarités de la résistance et de l'attrait. Et c'est ce qui fait tout son mystère, toute sa plénitude, qui nous enseigne. La vertu consiste à écouter l'existence. Nous le traduisons souvent dans nos mots quand nous disons « ça existe ». Et quand nous disons « ça existe », ça veut dire « il faut en tenir compte, écoute ce qui vient de l'existence et laisse-toi enseigner, informer, soit par ce qui résiste, soit par ce qui attire et parle aux sensibles. Laisse-toi enseigner par quelque chose qui, de l'intérieur de la concrétude de la réalité, te dit quelque chose du souffle créateur. C'était par Nana Mperadze et son chœur d'harmonie géorgienne des hymnes à la Mère de Dieu. Chers amis, j'ai la joie de recevoir Sandrine Canéry, qui est, comme moi, professeure à l'Institut Saint-Serge, qui est déjà venue à Radio Notre-Dame pour nous parler de son parcours et plus spécifiquement qui va venir nous parler de sa relation au judaïsme qu'elle connaît bien, puisque je crois, chère Sandrine, que vous enseignez le judaïsme, et donc vous allez nous parler de différents aspects du judaïsme durant ce mois d'octobre. Mais la première chose que je voudrais vous demander, c'est votre histoire. Comment le judaïsme est-il rentré dans votre vie ?
Alors bonjour à tous, bonjour, merci Bertrand de cette présentation. Alors finalement, c'est très inattendu, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est des rencontres. Et j'ai l'impression que c'est le judaïsme qui m'a choisi, à travers une personne dont je peux aujourd'hui citer son nom puisqu'elle n'est plus de ce monde. C'est une fondatrice de communauté qui s'appelle Simone Lévy. Et on va tout de suite plonger dans l'hébreu, puisque en hébreu, ça donne Shimon Lévy. Et Shimon Lévy, bah, c'est deux enfants de Jacob. Et ça veut dire Shimon Shma, écoute Lévy, mon cœur. Voilà. Écoute mon cœur, voilà. Donc rien que ça déjà, on voit bien que la personne qui porte ce nom, elle est marquée. Bon, mais c'était une fondatrice d'une communauté catholique, un petit monastère perdu dans la campagne, et il y avait évidemment sa fibre juive, parce que son père était juif, hein, pour porter un nom pareil. Qui travaillait à l'intérieur, et elle a senti qu'il fallait faire une communauté un peu particulière. Et il se trouve que, quelques temps après la fondation, qui a été une fondation assez classique, plutôt genre monastique, cistercien, voilà, on va dire comme ça, petit à petit, elle a intégré l'Orient dans toute la spiritualité de sa communauté. Jusqu'au moment où elle a intégré des prières juives dans l'office liturgique. Et ces prières juives sont extraites d'un corpus qu'on appelle la Amida. Amida qui veut dire se tenir debout, c'est-à-dire se tenir debout devant Dieu, quoi, hein, face à face. Et donc, évidemment, ceux qui allaient prier là et qui tombaient sur ces prières, ils posaient des questions. C'est ce qui a été mon cas. Et puis, j'ai rencontré cette femme. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'on avait affaire à des racines extrêmement profondes, et que si nous, on n'est pas les pieds bien ancrés sur terre, et même plus que sur terre, dans les racines de la terre, et ben on va flotter, quoi. On va flotter. Et que nous, chrétiens, notre responsabilité, c'était premièrement de bien comprendre de quelle sève on est nourri, de ces racines si profondes, et surtout, on est en dette, on a reçu quelque chose de cette immense tradition qui est la tradition juive. On a reçu. Et donc, eh bien, il faut être reconnaissant. Nous sommes débiteurs. Et quand on est débiteur, eh bien, on a le cœur plein de gratitude parce qu'on a reçu tout gratuitement. Alors évidemment, après, on pourrait y réfléchir comment on l'a reçu. Donc évidemment, à travers le Christ, les apôtres, n'oublions pas, hein, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, le Christ est juif, les apôtres sont juifs, la mère de Dieu est juive. Et juifs, ils n'ont jamais mis les pieds dans une église byzantine, enfin je veux dire. Hein, donc c'est clair. Mais il faut le redire quand même. Et Jésus portait le talit, là, ce châle de prière, et tout le monde va à la synagogue et on ne prie que comme ça, hein, à cette époque.
Et il enseigne dans des synagogues.
Donc attention, faut... Et nous, on passe par-dessus comme ça et tout de suite, on va à l'église. Oui, d'accord.
Le paradoxe, enfin... c'est que le Christ n'était pas chrétien.
Voilà, le Christ n'est pas chrétien.
Les chrétiens sont christiques, mais le Christ, et oui, au départ, il est juif.
Voilà, alors après, surtout les églises d'Orient vont dire, vu que c'est il est vrai Dieu et vrai homme et que c'est lui qui à côté du Père crée le monde le monde entier, hein, il est la parole créatrice, hein, le logos. Alors évidemment, dès qu'on commence à monter dans le Christ cosmique, ben alors là, il n'est plus ni juif, j'ai envie de dire, ni anglais, ni français, ni américain, ni rien, quoi, voilà. Donc là, on est élevé au-dessus des contingences du monde. Mais attention, ne pas perdre de vue qu'il est vrai homme. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est de tenir l'équilibre entre le Christ vrai Dieu, ok, pas de souci, vrai homme aussi. Et nous, dans le christianisme oriental, ou dans les christianismes orientaux, parce qu'il y en a plusieurs, et particulièrement peut-être chez les Byzantins, ben, on a un peu tendance, parfois, à oublier cette humanité, cet ancrage très profond qui a marqué tous les évangiles, qui a marqué nos écritures et qui a marqué notre tradition, qu'on le veuille ou non.
Et qui donne l'extraordinaire expérience que l'on fait à chaque fois qu'on nous révèle les racines hébraïques des mots.
Absolument.
Dont nous avons l'usage et dont nous ne comprenons pas parfois.
Absolument.
La profondeur cachée.
Absolument. Y compris dans les évangiles.
Ouais. Hein,
Talitakoum, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà.
Ouais.
Hein, donc, quand même, c'est... Et il y a beaucoup de mots hébreux dans les évangiles.
Vous enseignez le judaïsme ?
Alors, j'ai enseigné autrefois le judaïsme dans des cadres plus ou moins privés, dans des associations. Actuellement, à l'Institut Saint-Serge, bon, j'enseigne le Nouveau Testament, l'exégèse patristique. Et il se trouve que dans le cadre de cet enseignement Nouveau Testament et exégèse patristique, bien évidemment, je vais enseigner à mes étudiants à lire l'Évangile autrement que tout ce qu'on sait par cœur.
Et bien, de toute façon, une grande partie des pères connaissaient l'hébreu.
Alors, une partie des pères connaissaient l'hébreu, et même ceux qui ne le connaissaient pas, et là, c'est très intéressant parce que c'est ce que j'ai essayé d'approfondir durant ma thèse, c'est que même ceux qui ne connaissaient pas, comme quelqu'un comme Basile le Grand, comme Jean Chrysostome, ils disent « Ah, mais quelqu'un m'a dit qu'en hébreu, ça se dit comme ça ». Donc, ils se renseignent. Et puis, tous ceux qui savent l'hébreu, je peux vous dire qu'ils vont regarder, quoi. Ils vont regarder Théodore de Cyre, Jérôme, Origène, ils vont regarder l'hébreu, à côté du grec.
Voilà.
Et on a toujours séparé ce monde, le monde grec, donc païen, entre guillemets, la mythologie, etc., et le monde hébraïque. Eh bien, je suis désolée, mais il y a des ponts énormes, même au niveau de la langue.
Ou alors l'inverse, à un certain moment, on parle des Grecs, mais on ne veut plus entendre parler
voilà,
des Juifs.
Exactement. Voilà.
Il y a presque parfois une opprobre qui voilà. est jetée sur les Juifs, au lieu de faire collaborer ensemble le génie
voilà.
hébraïque
avec le génie
grec.
Voilà. Et finalement, quand on regarde bien, le christianisme hérite de ces deux traditions. Et le christianisme est un helléno-judaïsme ou un judaïsme hellénisé, sachant que il n'est ni païen, donc il n'est ni mythologique et il n'est ni une monothéiste pure comme le judaïsme, puisqu'il est trinitaire. Voilà. Et si la Trinité a pu entrer dans l'esprit de l'Église, c'est bien parce que il y avait dans l'esprit d'un grec plusieurs dieux. Sinon, c'est impossible. Un juif ne peut pas penser le monothéisme avec plusieurs personnes, avec trois personnes. C'est impensable pour un juif. Et donc, il a bien fallu sortir, à un moment donné, des cadres pour comprendre le Logos, le Fils incarné. Sinon, c'est impensable.
Ou alors, la meilleure manière d'être un, c'est d'être trois.
Voilà, ça on
est d'accord.
Et
là, il faut arriver à cette paradoxologie, pour reprendre un terme de Jean Kelevitch, et disant qu'au fond, pour le chrétien et le grec, 1 et 3, c'est la même chose.
Absolument, voilà, absolument. Voilà. Mais alors là, on entre dans des subtilités un peu
mais
compliquées.
Mais je suis sûr qu'à l'intérieur du judaïsme, il doit y avoir cette relation entre le 1 et le 3.
Bien sûr, bien sûr. Hein? D'ailleurs, les trois anges du chapitre 18 de la Genèse sont un bel exemple.
Voilà. Donc, vous avez rencontré le judaïsme, vous êtes nourri du judaïsme, et puis vous gardez encore beaucoup de relations avec le judaïsme.
Ah oui, bien sûr. Alors, il se trouve que donc, dans cette rencontre, bon, j'ai tout appris, moi, dans ce petit monastère, et il se trouvait que le prêtre, le moine de ce monastère, il était aussi, sa mère était juive, et il nous faisait des homélies que je ne comprenais rien. J'étais jeune, j'avais 25 ans, enfin j'étais extrêmement jeune. Et le dimanche, il nous parlait à moitié en hébreu, en expliquant. Et même en expliquant, je ne comprenais rien parce que j'étais dans un autre monde. Et donc j'ai suivi ces homélies tous les dimanches pendant des années. Et puis au bout d'un moment, paf, c'est comme une langue. On apprend la langue, on ne comprend pas bien. Puis à un moment donné, tout s'ouvre et on comprend tout. Et c'est génial. Et on se dit, mais c'est génial. Et au moment où on découvre c'est génial, on peut plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire, bon, maintenant, je vais y aller, quoi. Et je vais aller voir par moi-même. Et je vais apprendre par moi-même cette langue. Et donc, j'ai été propulsée par ce petit monastère, tout petit, minuscule, sans, qui fait pas de battage, qui n'a même pas de site internet. Enfin, bon, vraiment, propulsée dans ce monde hébraïque, dans ce monde juif. Voilà.
Eh bien, vous continuerez, pour notre plaisir, à nous parler de votre relation au judaïsme la prochaine fois. Merci,
merci chère
Sandrine.
Merci beaucoup, merci, cher Bertrand.
Et pour terminer cette émission, à nouveau, Nana Peradze et son chœur d'harmonie géorgienne pour un hymne à la Mère de Dieu.
Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrai. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui passe en aller. comme le jour avançait. En moi, je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé. Tout est si colossal.
Que si la mort